Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview aujourd'hui. L'interview se passe à Lucandiwa dans un lieu intitulé Exposition pour les artistes du Diwa. Alors c'est à la salle de la voûte, ruelle des voûtes. C'est une exposition ouverte tous les jours à partir du 26 juillet jusqu'au 4 août. Et nous avons autour du micro Monsieur Guinico. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, Monsieur Pierre Tussac.
Bonjour.
Et Madame Maryse Chabal.
Bonjour.
Tous trois, vous faites partie de cette exposition, donc vous êtes artistes du Diwa, et chacun de vous va présenter un peu ce travail qui regroupe une douzaine d'artistes, hein, on les énumérera pendant l'entretien. Et pour cela, quelle était cette motivation pour vous de créer ce lieu d'exposition?
Ben donc, d'abord, donc, Lucandiwa. Et donc, avec cette salle voûtée qui donc, se prête très très bien aux expositions, et donc on a été un certain nombre d'artistes du Diwa, donc ça a fait la réflexion qu'on pourrait se fédérer pour donc exposer ensemble. Donc il y a donc Diwa Expression, des artistes de Diwa Expression, sculpture et peinture essentiellement, aussi des artistes de l'atelier pictural de Lucandiwa, aussi donc qui ont la peinture donc aquarelle, donc acrylique et huile. Et donc cette année, on a aussi un photographe qui nous a rejoints. Et c'est pour le plus grand plaisir de tous.
Merci, Monsieur Nico. Alors, Monsieur Pierre Tussac, oui. Vous-même êtes photographe. C'est votre activité principale ou alors c'est plus aussi une passion?
C'est au départ ma formation initiale. J'ai appris le métier de photographe il y a un certain nombre d'années avec effectivement chez un artisan. J'étais apprenti pendant 3 ans, etc. J'ai suivi le cursus d'apprentissage classique. Mais effectivement, à l'époque, c'était un apprentissage, évidemment, non pas en numérique, mais en argentique et essentiellement en noir et blanc, mais qui m'a effectivement donné la base de ce métier de photographe, métier que j'ai pratiqué pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, j'ai basculé sur la communication, la publicité, etc. Mais la photographie est restée évidemment une passion permanente. Et voilà. Donc, c'est une passion depuis toujours. Et effectivement, les tirages que je propose, que j'expose, sont des tirages particuliers puisque je pars de ma photo originale que ensuite je retravaille à la fois sur les couleurs, sur les formes, avec un procédé que j'ai mis quelques années à peaufiner, qui maintenant depuis 3 ans porte ses fruits. Oui, c'est intéressant.
Nous avons aussi Madame Maryse Chabal, vous-même présenté des sculptures.
Alors moi je fais de la sculpture depuis 20 ans. On travaille essentiellement sur de la pierre à savon qui s'appelle la stéatite. Et on travaille aussi sur l'albâtre qui est une pierre un peu plus dure. Voilà, donc je fais partie de l'association Diwa Expression. Et je travaille avec plusieurs sculpteurs, on est nombreux cette année. Et on a comme professeur Patrick Guido, qui est notre professeur et avec qui on prend des cours. Voilà.
Monsieur Nico, vous-même donc pratiquez la sculpture et la peinture. C'est une passion qui vous a pris depuis longtemps?
Depuis 11 ans, parce que avant, mon activité professionnelle ne me permettait pas de m'exprimer sur le plan artistique. Mais donc j'ai fait un AVC. Et c'était le déclencheur. Et donc, il y a plusieurs théories, mais donc, pour rééduquer le cerveau lésé, on passe par le cerveau sain, qui est le cerveau droit. Et c'est le cerveau droit qui donc, est le siège du milieu artistique et artistique. Donc, est-ce que c'est ça? Mais donc, on a beaucoup utilisé le cerveau droit pour rééduquer le gauche. Et depuis, bon, ben, je me suis intéressé à la sculpture, à la peinture, et donc pour mon plus grand bonheur, parce que ça meuble bien mes semaines.
Votre travail en peinture est inspiré de quel art, de quelle expression?
Alors, moi, je fais essentiellement de l'aquarelle et du pastel. Donc, j'ai commencé à l'atelier pictural du Luc, avec des aquarelles figuratives, puis j'ai évolué avec le temps, avec des aquarelles non figuratives. Et donc j'ai sorti un livre il y a même pas un mois, un an, et donc qui relate tout mon évolution.
Et ce livre, il est disponible
à la librairie Mosaïque, entre autres, mais dans toutes les librairies de France, et ça s'appelle Nicospective.
Pierre, vous parliez donc d'une technique que vous avez élaborée pour travailler votre photographie. Moi, j'ai été un peu bluffé parce que je pensais que vous utilisiez certains verres, vous savez, des verres bosselés qui déforment un peu l'image par une vision, par transparence et donc de déformation aussi du sujet. Et en fait, non, c'est un traitement numérique que vous opérez.
C'est un traitement numérique à partir de ma photographie originale, qui me permet effectivement de modifier, vous avez pu jeter un œil, de modifier les formes, les volumes, etc. Et de sublimer aussi, c'est ce qui m'intéressait au départ d'ailleurs, de sublimer les couleurs. Et ça me. J'ai beaucoup de rouge dans mes photos parce qu'effectivement, c'est une couleur qui m'a toujours attiré et passionné. Et justement, cette technique permet de travailler le rouge d'une façon quasi infinie, quoi. C'est alors les bleus aussi, les rouges, mais le résultat se rapproche, enfin en tous les cas, j'ai été fortement influencé par le mouvement Nabi, qui était donc ce mouvement post-impressionniste, et c'est pour ça d'ailleurs j'appelle ces créations la nabigraphie, qui est un mot que j'ai totalement inventé d'ailleurs, mais qui pour moi a une résonance parce qu'effectivement c'est un mouvement qui a eu une influence importante et qui aujourd'hui aussi, même si je ne l'analyse pas en permanence, mais il est évident que c'est quelque chose qui m'influence fortement. Ouais.
Vous parliez donc de votre carrière professionnelle liée à la photographie et de son application dans le monde de la publicité ou de l'information.
Non, la photographie, mon activité photographique, elle a été au départ assez classique, puisque après la formation, etc., j'ai fait du reportage au Progrès de Lyon. J'ai travaillé aussi au service presse des armées. Enfin, c'était un schéma classique. J'ai eu beaucoup de mal à passer de l'argentique au numérique. Ça a été assez laborieux parce que c'est vraiment quasiment deux métiers différents. Et effectivement, cette technique m'a permis de découvrir une application, pas une application internet, mais une application différente de la photographie. Et de ce fait, ça m'a ouvert d'autres champs d'investigation et de création. Ouais.
Ce procédé de traitement de l'image, de la photographie, vous utilisez donc un outil numérique pour amener cette illusion. Cet outil, vous l'avez créé de toutes pièces ou alors est-ce que vous avez utilisé des applications qui le permettent?
C'est un outil empirique que j'ai créé de toutes pièces. Non, j'ai pas utilisé d'application du tout. Et c'est une technique en fait très, comment dirais-je, quasi aléatoire, c'est-à-dire que pour obtenir quelque chose de lisible et de satisfaisant, j'ai 90% de déchets sur mes créations. Donc C'est pas du tout une technique, comment dirais-je, fiable et applicable automatiquement. Et oui, j'aime bien ce procédé que je conserve secret, entre guillemets.
Oui, mais quel est ce processus, sans préciser en détail, mais quel est ce processus qui permet justement cette déformation de l'image, cette transformation?
Création à partir effectivement des outils numériques classiques.
Et donc vous disiez que c'était empirique. Initialement, oui. L'image quand même a son importance lors de cette prise de vue.
Oui.
Et est-ce que vous essayez aussi de restituer ce moment de captation sur l'image pour en développer peut-être une poésie?
Ça a forcément une influence au départ parce que ce qui va primer, ce qui va déclencher en fait la création, c'est la composition bien sûr en général, l'équilibre de la photo, etc. Mais également l'équilibre des couleurs. Donc à la prise de vue originelle, effectivement, j'ai en tête l'image que je vais pouvoir exploiter, développer, etc. C'est sûr.
Maryse Chabal, vous êtes sculptrice, vous expliquez donc d'utiliser deux pierres pour cela. Vous-même, est-ce que vous avez cette image en tête ou l'œuvre en tête avant même de la commencer?
Alors, ça dépend des pierres qu'on reçoit, parce qu'on reçoit des pierres, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Donc, quand on reçoit les pierres, ça dépend de la forme. Si la forme est allongée, on fera un personnage allongé, un personnage ou autre chose. Et si la pierre est différente, ben voilà. En fait, on ne sait jamais ce qu'on va faire quand on reçoit la pierre.
Et d'ailleurs, ces pierres, vous parliez de recevoir des pierres, elles viennent d'où ?
Ben, je pense qu'elles viennent de Belgique. On les commande, on commande des pierres, ben, ça dépend. Il y a des pierres ça va de 5 à 15 kilos, ou plus si on veut. Et voilà, quand on reçoit les pierres, eh bien, à ce moment-là, on essaye d'imaginer ce qu'on va faire.
Ce qui m'interroge, c'est le choix des pierres. Est-ce que vous avez un choix limité ou alors c'est complètement aléatoire? Non, aussi
alors on a des pierres de différentes couleurs. On a des pierres crème, on a des pierres vert clair, on a des pierres gris anthracite et puis on a de l'albâtre aussi. Donc on commande les pierres que l'on veut. On essaye de commander la forme. Voilà. C'est pas toujours respecté, mais enfin bon, en principe aussi. Voilà. Donc à partir de ces pierres-là, chaque sculpteur ou sculptrice imagine sa pierre.
Pour la création d'une œuvre, est-ce que vous procédez d'abord par le dessin pour trouver un peu la trame?
Non, pas du tout.
C'est complètement empirique aussi.
Oui,
vous retrouvez devant l'objet et
oui, voilà.
La forme de la pierre
en
vous inspire.
En principe, c'est la pierre qui nous guide. Hein, c'est pas voilà. La pierre nous guide et puis à partir de la forme de la pierre, eh bien on essaie de créer le résultat.
Donc ce sont des travaux émanant de DIY Expression.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous aussi pratiquez chez vous ces sculptures?
Oui, ça arrive, oui. Oui, oui. Surtout le ponçage, parce que le ponçage est très long. Donc ça, on le fait en principe à la maison. Enfin, on peut le faire à l'atelier aussi, mais en principe, moi, je le fais à la maison. Voilà.
Comment se constitue cette sculpture? Vous avez ce bloc, vous avez des outils
Alors on commence par... ça dépend. Si la pierre est fragile, parce qu'on a des pierres très fragiles, on commence à limer avec les limes. Sinon, on commence au burin. Voilà. Et puis après, on termine à la lime. Et puis après, le ponçage, parce que le ponçage est très long. Le ponçage se fait avec de la laine de verre et... un peu grosse au départ et puis de plus en plus fine. Voilà, pour arriver à ce que vous voyez là.
Les sujets sont plutôt du figuratif, avec une abstraction tout de même.
Y en a qui font du figuratif. Moi, je fais plutôt du figuratif, mais il y en a beaucoup qui font de l'abstraction. Comme Monsieur Nico fait beaucoup d'abstraction. Voilà.
C'est ce qu'il nous expliquait, hein, d'ailleurs, en parlant de l'aquarelle au départ. Et puis, vous vous êtes glissé petit à petit. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, vers cette abstraction? Et qu'est-ce que vous voulez en faire ressortir?
Donc, en fonction de la pierre, on a donc une imagination qui donc se développe. Et donc, c'est pas forcément, justement, du figuratif, mais c'est des formes. c'est des formes donc plus ou moins arrondies, plus ou moins cassantes, et donc c'est ce qui fait l'abstraction au lieu de figuratif qu'on voit beaucoup donc, et que certains pratiques avec des figures, des vierges, des danseuses et autres.
Votre pratique s'est enrichie de formation, de la pratique aussi, d'échanges avec d'autres personnes.
Alors, bon, j'ai découvert la sculpture après la peinture. Et on a un professeur qui est Patrick Guido, qui est très connu internationalement parlant pour les sculptures en bois, hein, qui habite dans le Diois. Et donc là, il nous conseille donc pour donc le travail, mais donc là, on fait ce qu'on le veut pour la réalisation, quoi. Voilà. Et donc. C'est un travail un peu d'équipe aussi, parce que donc tous au sein du groupe, on se donne des conseils, on se critique, on se félicite mutuellement.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa.
107.5,
101.7
FM.
Pierre, vous-même, la photographie, vous partez donc d'une image classique et vous lui amenez une certaine mutation. Cette mutation, comment s'est-elle élaborée selon vous ?
Au départ, ce qui a guidé en fait ma démarche, enfin mes essais, c'est qu'effectivement, je voulais sortir absolument d'une photographie classique que j'avais pratiqué pendant des années, qui m'apporte plein de plaisir d'ailleurs, etc., et que je continue par ailleurs à pratiquer de façon régulière, mais qui effectivement, comment dirais-je, restait dans les sentiers classiques et les sentiers habituellement pratiqués. Donc je voulais sortir de cette photographie classique et en explorant la couleur, parce que ma formation initiale était plutôt axée sur le noir et blanc, qui apporte effectivement beaucoup de choses, notamment en argentique, puisqu'on a des dégradés de noir, de gris, etc. dans l'argentique, qu'on a beaucoup de mal à retrouver, mais enfin maintenant ça a bien progressé dans le numérique. Il y avait une espèce de frustration de la qualité du noir et blanc en argentique. Et la couleur en argentique était une approche complètement différente. Donc le numérique, même si ça a été laborieux, m'a ouvert en fait des champs complètement nouveau, et c'est à partir de ça que j'ai commencé effectivement à travailler là-dessus pour obtenir bien sûr des choses différentes et des choses aussi qui moi me satisfassent, comment dirais-je, oui, qui satisfassent mon œil et puis mes influences, qu'on a tous des influences, donc je suis arrivé, c'est un mélange de tout ça en fait.
Il y a deux types de couleurs, hein, dans le numérique. Il y a la couleur d'écran RVB, rouge, vert, bleu, et puis les quatre, la quadrichromie, cyan, jaune, magenta et black. Ce que je voulais savoir, est-ce que pour vous, vous arrivez à discerner, et est-ce qu'il y a un traitement différent ? Vous parliez aussi de cet enrichissement du numérique aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est lié aussi au support comme le papier barité qui permettait justement ces nuances ?
Alors, c'est pas lié particulièrement au papier, au support barité, puisque en fait, pour mes créations, je tire rarement sur du barité et j'utilise beaucoup l'aluminium Dibon. Qui a l'avantage justement de sublimer encore un peu plus les couleurs et puis d'être également résistant aux UV, etc. Et donc en fait, là aussi j'ai basculé complètement de support, même si je fais aussi des tirages sur papier classique, mais les nouveaux supports, on va dire, ont participé en fait à l'ensemble de la démarche, et c'est des choses que j'ai découvertes petit à petit, parce que effectivement, au départ, je ne me suis pas dit, tiens, je vais tirer tout ça sur de l'aluminium. Dit bon, c'est au fur et à mesure de la découverte à la fois du résultat et des supports quoi, qui aujourd'hui sont fantastiques parce que c'est des choses qu'on conserve des années qui ne bronchent pas du tout. C'est superbe, c'est superbe.
Je revenais un peu aussi sur cette transition de l'argentique au numérique, ouais. Ce qui a été assez difficile, semble-t-il. Ouais. Mais est-ce que malgré tout, cela a permis d'enrichir aussi l'expression ?
Ah ben complètement, notamment pour la couleur. Oui, l'expression numérique que j'ai traitée au départ de façon traditionnelle, etc., et qui était... Qui m'apportait des choses intéressantes, mais un peu frustrantes aussi par rapport effectivement au résultat que j'avais auparavant avec l'argentique. Ce nouveau traitement du numérique m'a redonné, comment dirais-je, une volonté et une créativité nouvelle.
Et vous, Madame Chapelle, vous parliez de cette prise en main de cette pierre qui vous inspire. Est-ce qu'il y a quand même une préférence avant tout du figuratif ?
Oui, moi je n'aime pas trop l'abstrait. Enfin, j'aime bien quand c'est les autres qui le font, mais moi personnellement, je ne suis pas attiré par l'abstrait. Pas du tout, je ne sais pas faire. Voilà. Moi, je sais du figuratif. Et uniquement du figuratif. Quand j'ai voulu essayer de faire d'abstrait, c'était pas une réussite.
Quand je parle de figuratif aussi, c'est ce que vous représentez. On peut représenter des personnages, mais est-ce que vous pratiquez aussi des animaux, par exemple ?
Ah non, pas du tout. À part mon poisson de cette année. Non, sinon je suis pas. Mais c'est-à-dire, c'est la pierre un peu ce qui nous guide. Hein. Alors, moi, je ne suis pas trop attiré vers les sculptures représentant des animaux. C'est plutôt des personnages, des maternités. Je fais beaucoup de maternités aussi. Voilà, bon. Mais non, l'abstrait, ça ne me tente pas du tout.
Est-ce qu'on peut voir laquelle sculpture vous avez, vous, d'ici
La celle qui est au fond, là-bas.
Le personnage debout ?
Oui.
D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi cette notion de mouvement que vous voulez restituer aussi ?
Ah oui, moi j'aime bien le mouvement, je suis toujours dans le mouvement. Le mouvement très, très fluide, très...
Avec aussi un impératif, c'est que la sculpture puisse être équilibrée de manière à tenir seule.
Ah ben oui, oui, oui.
Mais, et ça, c'est un travail aussi.
Ah, mais c'est un travail difficile, parce qu'il faut baser la sculpture, la pierre d'abord, et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué au départ, hein, parce qu'on ne sait pas les pierres qu'on va recevoir, et des fois, c'est des pierres qui n'ont pas du tout de base. Il faut la baser, et bien souvent, il faut être un peu aidé. C'est notre prof ou monsieur Guinico qui nous aide. Parce qu'on s'aide beaucoup dans l'atelier, on se donne beaucoup des conseils et il y a une émulation incroyable. Donc ça, c'est très important. Parce que c'est quand même des gens qui travaillent depuis quand même quelques temps et qui sont quand même qui sont bien déjà bien courants. Donc on peut, on s'aide entre nous, on se donne des conseils, comme disait Guy, on se critique et on s'aide. Donc c'est bien.
C'est toujours constructif.
Oui.
Et vous, monsieur Nico, vous parliez de quel atelier précisément, madame, c'est pour Diwa Expression, mais vous avez aussi d'autres...
Aussi, je fais partie du Diwa Expression, de l'atelier de sculpture. Secondairement, après la peinture, mais ça m'a porté beaucoup parce que la sculpture, c'est en trois dimensions. Et donc, ça permet de voir les choses, même en peinture, de voir les choses différemment.
Hier, vous parlez aussi de cet atelier du Diwa Expression. Donc,
moi j'ai été gentiment invité cette année, effectivement, par Diwa Expression. Et le Diwa, c'est une grande partie de mon histoire. Mon père était originaire du village des Nonnières, etc. Donc je viens dans le Diwa depuis 1951. ça fait beaucoup. Et j'ai rencontré Marie Chabal qui effectivement m'a parlé de ses différentes activités artistiques et j'ai eu la possibilité de participer à cette exposition cette année. J'en suis vraiment très content, oui. C'est difficile d'ailleurs, c'est important, difficile de trouver des lieux d'exposition dans le Diwa. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et que j'ai vécu depuis 2-3 ans où visiblement il y a, il y a sûrement des espaces qui existent, etc. Mais difficile de les trouver. Nous sommes à Luc pour la saison estivale et évidemment la communication fonctionne bien. Mais j'ai remarqué que notamment sur Die, pas facile de trouver un endroit pour exposer. Enfin, en tous les cas, moi, je n'ai pas trop connaissance. Et Châtillon, il y a le festival à Révigne. Les lieux sont limités visiblement pour exposer de façon ou en groupe ou individuel. Hein, voilà.
Vous y exposerez justement à Révigne
Non, pas cette année. Non, pas cette année. Peut-être une année prochaine. Actuellement, j'ai une exposition de 8 créations à l'ABC, au restaurant l'ABC à Solor-en-Diois. Qui va durer jusque certainement à l'automne. Et voilà, donc effectivement, je pense qu'on est tous en recherche de lieux d'exposition. Ouais.
Maryse, pour vous, est-ce que cela est important de pouvoir vous retrouver dans ces ateliers, de pouvoir échanger? Et puis, quel est ce rythme justement de fréquentation? Est-ce que c'est une fois par semaine ou alors est-ce que ça peut être plus selon vos envies?
En principe, c'est une fois par semaine où on a notre professeur, donc Patrick Guido. Et c'est, pour nous, c'est vraiment essentiel de se retrouver parce qu'il y a quand même, comme je vous disais, une émulation importante. Donc pour moi, c'est vraiment très important. Voilà,
Alors, il y a une douzaine d'artistes qu'on peut citer, qui exposent dans ce lieu, avec principalement donc, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, mais encore...
Une artiste qui faisait partie de Diwa Expression, mais maintenant qui s'est donc son attraction, c'est plus le dessin. Et donc il y a un dessin qu'il expose cette année avec un livre de coloriage pour adultes qu'ils ont aussi donc à l'exposition. Mais donc essentiellement c'est la sculpture, la peinture et la photographie.
On peut citer les artistes qui exposent.
Alors en sculpture, nous avons Claire Cavana, Lucie Fontaine, Guy Nico, Marie-Jeanne Colombo, Maryse Chabal, Nadine Cassar, Nathalie Lang et Yvonne Chaudet. En peinture, nous avons Guy Nico, René Dussautois, Yvonne Chaudet. En photographie, nous avons Nicole Bouvier, Pierre Tussac et en dessin, Annie Guéron.
Et donc, cette exposition commence ce vendredi 26 juillet, donc depuis hier, et jusqu'au 4 août. Jusqu'au 4 août, hein, c'est...
De 10h à midi et de 17 à 19h.
Voilà,
tous les jours.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu aussi des autres personnes qui exposent? Là, je vois une série de peintures au fond, dans cette voûte, avec des représentations de paysages, mais aussi de figuratifs, des reprises aussi d'artistes connus comme Picasso ou Van Dongen.
Le professeur, c'est Annie Reynaud, qui l'accompagne, donc de... Patrick Guido, le professeur de sculpture, et donc c'est elle qui dirige l'atelier de certain nombre d'artistes et de peintres qui soit fait des œuvres donc personnelles, soit reproduisent beaucoup des œuvres de peintres célèbres.
Justement, vous-même, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont marqué et qui vous ont donné envie de faire ?
Ouais. Alors oui, c'est sûr que moi je suis admirateur. Nicolas de Staël, notamment, hein, qui passé un moment mais très bien inspiré, mais aussi un artiste qui est originaire de Martigues. Un artiste donc orientaliste et aussi donc
je vais passer à Maryse. Justement, vous-même, quel artiste vous a donné envie de sculpture?
J'ai commencé la sculpture, je n'y connaissais rien du tout. J'ai commencé la sculpture quand j'étais à la retraite, c'est-à-dire il y a 20 ans. Donc ça fait 20 ans que je sculpte. Mais je ne connaissais pas beaucoup de choses sur l'art à ce moment-là. C'est petit à petit que je me suis... j'ai lu j'ai beaucoup vu des livres. Alors, il n'y a aucun artiste qui m'a finalement inspiré. Non, je pars.
Vous avez votre propre envie.
Ah oui, moi je pars de la pierre et voilà. Je me suis jamais inspiré. Je ne me rappelle plus de quel artiste je m'étais inspiré. J'en sais rien, mais non, je pars de la pierre. Je pars de la pierre, c'est la pierre qui me guide. Vraiment, c'est...
La pierre que vous recevez a un aspect assez brut, avec des arêtes. Et pour vous, le travail, c'est d'y amener de la douceur.
Ah oui, moi je sculpte beaucoup en douceur. J'aime beaucoup les formes, les mouvements, les formes très douces, les mouvements. J'aime beaucoup, d'ailleurs, vous verrez, je sculpte beaucoup. Cette année, c'est pas très représentatif que ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude c'est beaucoup plus dans le mouvement, à part le personnage qui est là-bas au fond.
Oui.
Voilà. Mais sinon j'aime beaucoup les formes douces. C'est vrai que j'ai un style un peu particulier. On me dit toujours, on reconnaît tes sculptures parce que c'est toujours les mêmes formes. Voilà.
Pierre, pareil, est-ce qu'il y a des photographes qui vous ont donné envie de pratiquer ?
Ah ben initialement, effectivement, les photographes qui m'ont marqué, c'est toute la lignée des humanistes, Cartier-Bresson, Doisneau. Il y a également des photographes américains dont j'ai complètement oublié le nom maintenant, qui m'ont marqué dans la première partie de mon activité photographiste, qui était du reportage en travaillant au Progrès de Lyon. C'était effectivement c'était de la photo noir et blanc et de reportage, donc c'était tous ces gens là étaient vraiment et ensuite effectivement quand j'ai commencé à m'intéresser à la couleur de façon significative, là c'est plutôt les peintres effectivement qui eux ont généré cet intérêt et cette nouvelle créativité. Je citais les gens du mouvement Nabi comme Serrusier, Bonnard, Huillard, etc., qui avaient un univers qui éclate complètement de couleurs et qui, eux, m'ont fait découvrir d'une certaine façon une autre façon de photographier, en fait. Ce sont vraiment ces peintres-là qui m'ont initié à leur insu et avec le décalage du temps, mais qui m'ont donné envie effectivement de creuser cette pratique-là pour obtenir donc des résultats différents d'une photographie traditionnelle. Ouais.
Monsieur Nico, vous avez retrouvé le nom de l'artiste alors ?
Oui, parce que en dehors des grands peintres comme Picasso, entre autres, mais...
Vous parliez de Nicolas de Staël tout à l'heure.
Nicolas de Staël, aussi Karnierski, et aussi Félix Ziem, qui est donc un musée à Martigues, et qui est un orientaliste, qui a peint beaucoup sur Venise, et donc aussi en Afrique. Et donc, au début, je me suis inspiré beaucoup de ces peintres-là pour faire mes premières œuvres avant d'évoluer vers donc, le non figuratif.
Pour vous, est-ce que cela semble important de toujours apprendre dans ce que vous pratiquez ?
Oui, alors là, c'est essentiel. Hein. Eh bien, parce que aussi, on a pour l'atelier pictural de Luc, on organise un ou deux stages par an avec des aquarellistes de renom qui viennent donc de la région Rhône-Alpes. Hein. Et donc, c'est important pour la technique évolue. Mais pour apprendre certaines techniques qu'on apprend, et donc pour progresser, parce que sinon on s'encroûte, l'expression, et donc on tourne à rond forcément.
Justement, Maryse, est-ce que vous arrivez, est-ce que ça vous attire justement cette mise en danger de votre pratique pour une création?
Comment une mise en danger ?
C'est-à-dire, comme disait Monsieur Nico, justement, de ne pas s'encrouter, mais toujours aller vers...
Ah, mais il est évident que je ne sculpte pas maintenant comme je sculptais au départ, parce que je n'y connaissais rien. Je ne voulais pas de modèle, parce que les modèles ne m'inspiraient pas. Parce que, ça, je vous dis, c'est la forme de la pierre qui nous inspire. Et donc, j'ai beaucoup progressé, parce qu'au départ... je ne faisais pas grand-chose. J'ai commencé sur du bois, mais le bois, c'est encore plus dur que la pierre. Donc, j'ai laissé le bois et j'ai fait uniquement de la pierre. Alors, j'ai commencé par l'albâtre, qui est une pierre très dure, mais j'aimais bien. Et puis, après, j'ai fait la stiatite, qui est une pierre à savon, qui est beaucoup plus tendre quand même. Voilà, mais j'ai évolué beaucoup dans mes créations.
L'important, c'est le grain aussi. Il faut qu'il y ait une finesse aussi de cette roche.
Ah oui, la roche, elle n'est pas toujours la même. Hein. Alors, des fois, elle est dure, des fois, elle est moins dure, des fois, elle est très friable. Et ça, c'est plutôt désagréable. Parce que si vous donnez un coup de burin, des fois, votre pierre, elle se partage. Elle se partage. Moi, ça m'était arrivé, les premiers temps où je sculptais, j'ai eu une pierre, c'était blanche, elle était belle. J'ai donné un coup de burin, la pierre s'est partagée en deux. Et mon professeur m'a dit, tu vas pouvoir arriver à faire deux pierres, tu vas pouvoir arriver à faire une belle création. Donc j'ai appris, j'ai imaginé, et j'ai fait quelque chose d'assez joli. Voilà.
Pareil pour vous, Pierre, la dernière question. Est-ce que vous aussi êtes dans cette approche d'une mise en danger de ce que vous créez ?
Tout à fait, c'est essentiel, je pense. C'est essentiel, d'où l'importance de se confronter au regard du spectateur, parce qu'effectivement, on progresse en travaillant, etc. Mais le regard de l'autre, du spectateur, est hyper important. C'est, à mon avis, c'est même essentiel, et c'est là que ça nous offre la possibilité de progresser, d'imaginer, de se remettre en question, etc. Et le regard critique est indispensable. Sinon, on se sclérose et on tourne en rond, parce que le risque est de refaire sans arrêt la même chose. Hein, ça, c'est clair.
Est-ce que vous éditez une page sur Internet pour annoncer le programme de cette ouverture ?
On a fait passer un article sur le petit Diwa, voilà, qui a été mis aujourd'hui. Et puis on fait des affiches, hein, on fait des affiches, on distribue des flyers. Oui, on est assez distribué comme...
Oui. On communique beaucoup.
Jusqu'à présent, il n'y a pas de site. C'était le sens de votre question. De site dédié, mais ça fait partie des réflexions en ce moment. Oui, tout à fait. C'est un outil qui est indispensable petit à petit de maîtriser et puis d'exploiter, c'est sûr. Ouais.
Je vous remercie, Maryse Chabal, Pierre Tussac et Guy Nico, de nous avoir prêté vos voix pour
vous.
Cette émission.
Ben, merci à vous.
C'est merci vraiment, à vous d'être venu jusqu'à nous. Et puis, très content de pouvoir se faire entendre auprès de vos auditeurs, des auditeurs du Diwa. Très important.
Je vous dis au revoir, monsieur Nico, aussi.
Mais bah, si, bon, merci d'être venu pour vous intéresser aux artistes du Didiwa. Je vous remercie beaucoup.
Au revoir. Ouais.
I try. It seems very clear to me that I try, but it's not clear to you that I do. What I'm trying to say.